Alors, bonjour à chacun, chacune. C'est une joie d'être là. On est frères et sœurs en Christ, chacun à sa place dans le corps du Christ. Et ben, je vais vous présenter brièvement un peu une petite rétrospective des deux dernières années, puis nous présenter un peu brièvement. Donc, on s'appelle Nadia et Pascal Scheidegger. On sert Dieu depuis octobre 2019 à Madagascar. Nous sommes à Tamatav, la capitale économique de l'île. Alors sur la droite de votre carte, vous voyez une toute petite île le long de la côte est. Ça, c'est l'île de Sainte-Marie et nous, on est sur la côte est, juste en dessous de cette petite île. Il y a comme un tout petit haricot là. Donc voilà, c'est là qu'on sert le Seigneur. Ah pardon, voilà. Notre église d'envoi, eh bien c'est aussi une église free. C'est celle de la Croisée à Blonay, sur la Riviera. Nous vivons grâce au soutien financier de frères, de sœurs, qui sont membres des différentes églises de la Riviera et de Fribourg. La SMG est notre partenaire en Suisse. C'est donc la SMG qui récolte les dons, qui fait le travail administratif d'un patron au niveau de nos assurances sociales. Et puis, c'est là aussi qu'on a une personne de référence. Cette personne-là, c'est notre RH, et puis avec elle, on partage ce qu'on vit sur le terrain, régulièrement. Il y a aussi l'AFRE qui nous soutient pour ce qui concerne le paiement d'une part de nos cotisations AVS-AI. Donc, je peux dire que c'est grâce à vous tous. C'est grâce au soutien de toutes ces personnes qu'on peut se tenir devant vous ce matin. On vous en remercie. Et ça veut dire aussi que par vos dons, par votre argent, eh bien, vous participez avec nous au travail que Dieu nous donne de faire à Tamatav. Voilà, ça c'est notre partenaire sur place. C'est une église baptiste. Elle s'appelle l'église d'Ambulmading, c'est le nom du quartier. Voilà, ça c'est les collègues de Pascal. Donc à droite, avec les lunettes, c'est le pasteur. Et puis de l'autre côté, c'est l'ancien. Alors Pascal, eh bien, il prêche dans cette église. Il donne des enseignements. Il donne aussi quelques cours bibliques. Il y a en fait des croyants qui sont demandeurs et nous les accueillons chez nous. Et Pascal les enseigne, c'est une sorte de discipulat. Depuis juillet 2025, Pascal utilise Facebook, c'est très répandu à Madagascar. Il a ouvert le groupe Romains 10-17 afin de pouvoir partager ses enseignements au plus grand nombre. Le but étant que ses enseignements puissent être exportés partout dans l'île. Madagascar, elle n'a pas des très bonnes routes, c'est compliqué de se déplacer. Donc chacun peut ainsi les imprimer à sa convenance, tout étant deux langues, français, malgache. Pascal est aussi responsable d'une cellule de prière dans l'église. On se réunit environ une fois par semaine et chacun l'anime à son tour. En général, elle a lieu dans la maison de celui qui l'anime. C'est l'occasion de développer des liens un peu plus profonds avec nos frères et sœurs malgaches. Et pour ma part, eh bien, je partage un message aux enfants durant les 10 minutes qui leur sont consacrées pendant le culte. C'est un petit peu différent. C'est vraiment pendant le culte qu'on leur offre un petit témoignage, un petit message. Et c'est environ une fois toutes les 6 semaines parce qu'on fait ça chacun à notre tour. Et je participe aussi à l'évangélisation avec les membres de l'église. Ça se passe en général devant l'église. C'est une route très fréquentée. Et nous nous tenons là un samedi matin pour partager l'évangile aux passants. Je prépare aussi un travail de fond pour l'évangélisation des enfants sur la base du livre Sans Parole qui présente le salut avec 5 couleurs. Alors au vu de l'humidité à Tamatav, le papier c'est pas du tout le meilleur support. Donc on a choisi de faire ça avec des tissus, plastifier tout le matériel et comme ça tient longtemps. Je vous partage encore notre collaboration avec Bible par Internet. Cette année, il y a environ 350 Bibles qui étaient stockées chez nous ont pu être distribuées au nord et au sud de Tamatav par nos amis missionnaires malgaches. Eux, ils peuvent aller là où c'est pas pertinent que nous y allions. Et ces Bibles qui sont offertes par cette association, eh bien, c'est un cadeau très précieux parce qu'en brousse, les croyants, ils n'ont pas les moyens de s'offrir une Bible. Je vais vous partager maintenant quelques défis. C'est les défis que nous avons eus pendant les 2 dernières années de ministère. Alors, tout d'abord, un des défis les plus importants, c'est que pour toutes ces activités que je vous ai présentées, nous avons besoin de parler la langue. Et après 7 ans sur place, je vous dirais qu'on a encore bien des progrès à faire. En fait, à notre arrivée, j'avais rencontré une expat, elle m'avait dit: Ah, moi j'ai mis 8 ans pour apprendre. J'aurais trouvé ça long, mais elle avait tout à fait raison. Voilà. Un autre de nos plus grands défis, je pense vraiment, c'est les demandes d'argent. On y est très, très souvent confrontés. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que chaque mois, nous mettons de côté une dîme sociale. Ainsi, lorsque des demandes nous parviennent, nous prenons un temps de réflexion, un temps de prière. Et puis, en général, on choisit de donner dans les cas d'urgence. Mais nous n'entrons pas du tout en matière concernant les demandes de la vie quotidienne ou des besoins de tous les jours. Malheureusement, les besoins de plus en plus nombreux et la mendicité, qui sont devenues des choses si courantes dans la société malgache, affectent nos relations qu'on a avec les croyants. Et souvent, en fait, les gens ils nous approchent dans le but d'obtenir de l'argent. Ça biaise totalement les relations. Et nous, en fait, on essaye de construire des connexions de personne à personne et non pas de aidant à aider. Un autre défi de notre ministère, et pas des moindres, c'est celui du temps et des réalisations. On a appris durant ces 2 dernières années combien nous n'étions pas du tout maîtres à bord. Il y a un autre capitaine, c'est le Seigneur. C'est son plan de route qu'on doit suivre pas à pas. Oui, tout prend beaucoup de temps. Il y a souvent des imprévus. Alors tout d'abord, comme une grosse pluie, mais qui inonde la moitié de la ville parce que les canaux d'égout ne sont pas débouchés. Ça rend les déplacements dangereux parce que sur les égouts, il manque des plaques en béton, donc il y a des trous. Donc quand il y a de l'eau comme ça, on ne voit plus les trous. Donc voilà, souvent ça cause l'annulation de l'activité. Parfois, c'est nos situations familiales qui viennent bousculer le programme. Comme en décembre 2024, lorsque le papa de Pascal a été hospitalisé en fin de vie, nous sommes partis pour la Suisse. Le papa de Pascal a rejoint la patrie céleste en janvier et nous sommes restés 3 mois sur place pour mettre en ordre un petit peu les affaires. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, nous sommes vraiment passés d'une saison à une autre. Il faut savoir aussi qu'à Madak, où c'est l'hiver en Suisse, chez nous, il fait chaud. Il fait 34-36. Donc, on a vraiment, voilà, passé d'une saison à l'autre. En septembre 2025, c'est un déménagement qui a chamboulé notre quotidien. Notre ancien lieu d'habitation était devenu beaucoup trop bruyant, plus très sécure. Donc, on a choisi de déménager. C'est assez culturellement très différent. Donc, nous, on ne portait rien. Et nos amis qui étaient là, il faisait le travail. C'était très particulier. On n'est pas habitué à ça. Fin septembre 2025, nous avons vécu quelques semaines d'instabilité politique à Madagascar. Il y a eu quelques émeutes. Le président malgache a fui le pays. Et puis, c'est un colonel qui a pris le pouvoir. Donc, on est resté confiné en partie à la maison pendant 2 semaines. Là aussi, changement de programme, tout notre quotidien chamboulé. Moi, j'étais pas très efficace durant ce temps-là, c'était quand même un peu anxiogène. Et puis voilà qu'en novembre 2025, c'est ma maman qui est partie à son tour rejoindre le Seigneur. Nous sommes revenus encore une fois en Europe pour 3 semaines. Complètement le décalage à nouveau. Vie en Europe, vie malgache, plein d'émotions. Et encore une fois, notre programme, nos buts, nos objectifs totalement chamboulés. Pour terminer, dans la nuit du 10 au 11 février 2026, voilà que le cyclone Geysani est entré droit sur Tamatave. Alors cette fois, on n'a pas échappé. Il a détruit une grande partie des maisons, les infrastructures électriques de la ville. Là aussi, changement de programme important. Voilà, ça c'est notre salon après Ghézani. Comme vous pouvez le voir, le toit n'a pas résisté aux rafales. Donc on a à nouveau déménagé. On habite en studio actuellement, pas très loin, heureusement. Voilà, je veux en profiter là pour vous remercier encore une fois au nom des croyants de Tamatave pour les dons reçus. Ils l'ont vraiment précisé que lorsqu'on serait dans les églises, il fallait remercier. Ça a été très généreux. Ils ont vraiment été bénis. On a pu faire six, c'est ça, hein, six distributions dans notre église, plus des communautés baptistes aux alentours. Les gens ont reçu de quoi acheter du bois, de quoi acheter des tôles, refaire leur maison. C'est magnifique. Donc, merci beaucoup. Alors, pour nous, eh bien, vivre tous ces changements, ces deuils, ces situations de catastrophe, de crise, eh bien, ça a transformé notre vision sur le temps, sur la réalisation de nos objectifs. On a compris combien Dieu, il est vraiment souverain. Il est souverain sur le temps et sur tout ce qui arrive dans nos vies. Vous savez, parfois, on prévoit que tel ou tel projet, ça sera fini dans 2 mois. Pas du tout. Il sera mis en suspens durant 2 mois. Et pendant ces temps d'imprévus pour nous, mais pas pour Dieu, eh bien, il nous a enseigné. Nous avons été changés, nous avons été modelés, et en fait, on apprend toujours plus à lui faire confiance. Puis on a réalisé vraiment ce qu'on a de plus précieux dans la vie, les amis. Mais c'est notre Dieu, c'est rien d'autre. C'est Dieu, c'est la relation qu'on a avec lui. Ça ne nous sera jamais enlevé. Quoi qu'il arrive dans nos vies, c'est lui qui doit être toujours notre priorité. C'est vers lui que nos regards doivent se tourner. Je termine par la leçon qu'on a reçue de nos frères et sœurs malgaches. Ils sont admirables dans les difficultés. Et on a célébré le Seigneur ensemble le premier dimanche qu'a suivi le cyclone. Voilà, elle était comme ça, notre église. Là aussi, le toit, il est parti, le vent, il a emporté les chaises, le faux plafond est tombé. Donc voilà, nous avons remis de l'ordre. Et puis tous ensemble, nous avons célébré un culte. C'était magnifique. Comme vous pouvez le voir, ben, c'était devenu une église sans toit, aux murs branlants, mais on y a vécu un fort moment de communion fraternelle. Alors, je vais terminer par ces paroles du psaume 34,2 qui dit: Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Merci pour votre attention. Je passe la parole à mon mari.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de pouvoir partager. Merci pour l'accueil qu'on a reçu ce matin. Et sans surprise, je vais prêcher sur la mission. La mission, c'est ce que nous prêchons. Donc, en fait, c'est la parole de la foi que, en fait, nous confessons aux hommes. En vérité et en esprit, et d'ailleurs pas seulement aux hommes, hein, parce que ça serait un peu réducteur, pardon. Alors c'est croire dans le cœur et qui nous sauve, pour ensuite confesser de sa bouche. Donc c'est la foi en premier, suivie en toute logique par une parole. Une parole de justice, parce que l'Écriture le dit très bien, ainsi tu ne seras pas confus. Et ça, évidemment, c'est très important. Qui a compris ce que je viens de dire? C'était clair ou pas? Me semblait aussi. Je trouve que de nos jours, le discours sur la mission de l'Église ressemble à ça. C'est devenu confus. Il y a 45 définitions différentes de la mission. Tout semble être devenu mission. Tout est mélangé. Action humanitaire, action sociale, action éducative, action sanitaire, formation en tout genre, développement. Tout est qualifié de mission. Je suis parti un mois en Afrique pour faire de la mission. J'ai parlé de Jésus à mon boulanger, je suis missionnaire. Ou plutôt, pour emprunter le terme du moment, je suis missionnel. Et il semble que du moment où c'est bien, du moment où c'est une bonne œuvre, du moment que c'est en dehors de la maison et de l'église, eh bien, ce soit missionnaire. Le théologien Stephen Neil disait déjà en 1959, « Quand tout est mission, rien n'est mission. » Or, la Bible nous enseigne concernant la mission de l'Église à l'égard du monde. Et laissez-moi vous lire quelques versets de l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 18. Romains 10, versets 9 à 18. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire avec moi, sinon je sais, projeté à l'écran. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Quel beau texte Paul nous a laissé. C'est clair, hein, cette fois. Le sujet de ce chapitre 10, qui commence réellement à chapitre 9, verset 30, c'est le suivant, l'acquisition de la justice de Dieu par la foi. Les Juifs qui ont du zèle pour tout ce qui concerne Dieu n'ont pas acquis cette justice. Les Juifs, nous dit Paul, croient toujours que la justification devant Dieu s'acquiert par les œuvres de la loi. Chapitre 9, verset 32. Ils n'ont pas cette intelligence et cette humilité de croire que Christ est la fin de la loi. Chapitre 10, verset 4. Il se heurte encore et toujours au Seigneur qui a accompli parfaitement la loi, rendant possible la justification de ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, la loi, c'est faire. Et d'ailleurs, tous les légalismes reposent sur des œuvres. Par contre, la foi, c'est croire que c'est fait. Grande différence. La foi, c'est croire que Jésus-Christ l'a fait à notre place et pour notre bénéfice. Ma justification repose sur l'œuvre de Christ, pas sur la mienne. Ma justification repose sur la force et la perfection de Christ, pas sur les miennes. La foi, c'est confesser cette vérité. Christ seul, pas moi. Christ seul l'a fait. Or, cette confession de foi, les Juifs ne l'ont pas faite. Ce sont les païens, c'est-à-dire vous et moi, qui avons reçu cette justice qui vient de la foi sans même la rechercher. Chapitre 9, verset 30. Et ça nous conduit à ce que j'ai lu tout à l'heure. Le salut, nous dit Paul, au verset 9 et 10, passe par deux conditions. C'est comme la pièce que tu as parlé, Rémi. Il y a deux faces. Il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus et croire dans son cœur que Dieu la ressuscité des morts. C'est au verset 9. Il faut croire du cœur et confesser de sa bouche. C'est ainsi que l'on parvient au salut. Verset 10. Il faut les deux choses. Il faut le dire et il faut le croire. Il faut croire et il faut dire à haute et intelligible voix. Mais quoi donc? Eh bien, il faut croire et confesser que Jésus est Seigneur. Dire seulement ne suffit pas, il faut aussi croire. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec cette proposition. Il y a des gens qui disent, mais qui ne croient pas pleinement. Alors si ce matin, dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui ne croit pas encore pleinement au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, eh bien nous vous en supplions. Croyez. Croyez pour être sauvé. Vous pouvez être rendu juste devant Dieu par Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de vos âmes. Croyez pour être pardonné de vos péchés. Croyez pour être sauvé de la mort et recevoir la vie éternelle. Croyez que Jésus-Christ est mort pour vous et qu'il vous rachète. Croyez que Jésus-Christ a supporté à votre place la colère de Dieu que vous méritez. Dire sans croire, c'est inutile. Mais croire sans le dire, ça n'est pas suffisant non plus. Et on a moins l'habitude de ça. Pourtant, Jésus a été très clair là-dessus. Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, versets 32-33. Prends position publiquement pour moi, dit Jésus. Identifie-toi devant le monde comme un chrétien et tu seras reçu comme un enfant légitime dans la vie éternelle. Si tu ne le fais pas, c'est comme si tu me reniais. C'est ça que Jésus déclarait à ses disciples. Alors, si ce matin, il y a des personnes ici présentes qui croient, mais qui n'ont, par exemple, pas encore été baptisées, on travaille avec des baptistes, ça doit déteindre dessus, hein. N'attendez pas, faites-vous baptiser. C'est la plus grande confession de foi publique que vous ferez. C'est la confession de foi la plus solennelle que vous ferez de toute votre vie. Et si ce matin, il y a des personnes ici présentes qui croient, mais qui craignent de se déclarer publiquement pour Jésus-Christ, mais j'aimerais vous rassurer, vous encourager. Écoutez bien. Parlez, n'ayez pas peur. Le Dieu éternel est avec vous. Rien que ça. Le Saint-Esprit demeure en vous. Que risquez-vous? Et que risquez-vous dans ce pays? Des moqueries. Ouais, alors à coup sûr, ça, on n'y échappe pas. Des paroles méchantes, certainement, ça vient régulièrement, surtout la famille. Une mise à l'écart de certains groupes, peut-être bien, et savez quoi? Parfois c'est tant mieux. Mais la Suisse est encore un pays qui est favorable à la foi chrétienne. On n'est pas en Afghanistan, on n'est pas au Yémen. Alors, ne crains pas, parle, déclare-toi pour Christ. Il est vrai que confesser la vérité et refuser les compromis, ça vaut aux chrétiens de l'opposition. Parfois une opposition qui est ouverte, qui est franche, c'est cache. On sait qui est l'adversaire. Mais parfois c'est caché, c'est dans l'ombre. Ça chuchote par derrière. C'est mesquin et hypocrite. Mais l'un ou l'autre, peu importe, le Seigneur t'appelle, crois et confesse-le. Confesser, c'est important, parce que c'est un engagement qui conduit à affiner sa foi. Parce que plus on en parle, et mieux on en parle. Plus on en parle, et plus on y croit. Et plus on y croit, plus on a envie d'en parler. Alors ne vous laissez pas intimider, parce que l'enjeu est trop important. Ces deux aspects du salut, croire et dire, sont répétés dans les versets 11 et 13. Au verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Confus, ça veut dire être embarrassé par la honte lorsqu'il sera devant Dieu. Honteux de ne pas avoir cru en Dieu, mais d'avoir cru à la place toutes sortes de balivernes. Et au verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Invoquer, c'est appeler le Seigneur, donc dire son nom à voix haute. Alors celui qui croira dans son cœur et confessera de sa bouche sera sauvé. Dans les versets suivants, 14 à 18, Paul pose toute une série de questions. Et quand j'ai préparé la prédication, j'ai eu de la peine avec ces questions parce que je les trouvais désordonnées. Il me semblait que c'était le foutoir. Un peu comme quand on se parle à soi-même, il y a bien un fil, mais c'est inconnu et hermétique aux autres. C'est que pour la personne qui pense. Eh bien, pas du tout. Moi, j'ai découvert qu'il y a une progression parfaitement logique et bien étayée. Seulement, il ne faut pas commencer avec le verset 14. Il faut commencer avec le verset 17 et remonter le fil jusqu'au verset 14. Eh bien non, jusqu'au verset 13. Pourquoi le verset 13? Parce que le verset 13, c'est la mission de l'Église devant le monde. Quelle est cette mission? Amener des hommes et des femmes à invoquer le Seigneur afin d'être sauvés. Amener des hommes et des femmes à invoquer le Seigneur afin d'être sauvé. C'est là ce que Paul nous montre dans ses questions. On va détricoter ce que l'apôtre a tissé. Verset 17. Pour avoir la foi, il faut entendre la parole de Christ. C'est la base. Ça, c'est le fondement sur lequel la foi qui sauve doit reposer. Tout autre fondement, philosophique, humanitaire, éthique ou religieux, est impropre à la vraie foi. Et il est faux de croire qu'un homme ou une femme doit d'abord être éduqué, instruit, initié, nourri, soigné, formé, bien gagner sa vie ou avoir un emploi stable pour avoir la foi. Et si l'on pense que la mission de l'Église est de régler les problèmes de l'humanité afin que l'humanité puisse entrer dans la foi, eh bien on fait fausse route. Et c'est très simple, nous n'arriverons pas à prêcher l'Évangile parce qu'il y a tant de problèmes à régler dans ce monde. Nous n'en aurons pas le temps. Le seul acte qui prépare l'homme perdu à entrer dans la foi, c'est la prédication de la parole de Dieu. Alors je le dis autrement, seul l'Évangile conduit à la foi et au salut. Ni l'humanitaire, ni le social, ni l'éducation, ni la prospérité n'ont la puissance nécessaire à sauver qui que ce soit. Seul l'Évangile, seule la parole de Christ le peut. Et c'est ce que Paul explique ici. Puisque la foi vient de la parole de Christ, cette parole doit être prêchée. Il faut donc des serviteurs pour proclamer cette prédication. Si les prédicateurs étaient tous restés à Jérusalem, auraient-ils entendu la parole de Christ à Éphèse, à Corinthe, à Rome, à Cossonay? Eh bien, certainement pas. Aujourd'hui, nous pensons que l'Évangile peut aller seul par radio, télévision, Internet et les réseaux sociaux. C'est vrai que beaucoup de belles choses se font, mais on sait bien depuis le Covid que rien ne remplace le présentiel. Aucune communion fraternelle ne peut exister à travers un écran. C'est une affaire entre vivants. C'est une parole qui va d'une bouche à une oreille. Mais c'est surtout un cœur qui rejoint un autre cœur. C'est organique. Donc, pour entendre et croire à cette parole de Christ, il faut qu'elle soit prêchée et il faut la prêcher sur place. Résultat, il faut donc envoyer des prédicateurs afin de faire entendre cette parole de salut. Jésus est Seigneur. Le lien, c'est le lien entre le verset 14 et le verset 18. N'ont-ils pas entendu? Eh bien si, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ça, c'est l'accomplissement de la mission de l'Église envers le monde. Envoyer des prédicateurs de la parole de Christ partout, afin que le monde perdu croit et confesse que Jésus est Seigneur. Alors les hommes et les femmes qui sont dans les ténèbres passeront à la lumière. Alors les hommes et les femmes qui sont morts et perdus trouveront la vie. Rien n'est plus important que cette parole que nous avons reçue, à laquelle nous avons cru et que nous confessons publiquement. Rien ne mérite plus d'attention et de soin de la part des églises. Portez cette parole jusqu'aux confins du monde. Et cette mission, la plus grande qui soit, elle est encore en chantier et elle cherche des ouvriers. J'aimerais terminer avec ceci. Peut-être que certains diront, voilà encore un dualiste. Alors un dualiste, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelqu'un qui séparerait l'action sociale de la proclamation de l'Évangile selon la théologie de la mission holistique ou de la mission intégrale, si vous préférez. Non, je ne suis pas dualiste, je suis réaliste. Et si j'ai pu constater une chose, c'est que celui qui s'engage dans l'action sociale se retrouve rapidement débordé par la tâche et il n'a plus le temps pour l'Évangile. Je dis action sociale, mais c'est valable pour l'humanitaire, l'éducation, la santé, la formation, le développement. Rapidement, la prédication de la parole de Christ se réduit à peau de chagrin et elle n'existe presque plus. Tant il y a à faire. Je vous donne un exemple. Nous avons assisté à la présentation d'une œuvre missionnaire où le point numéro 4, qui était Jésus, était déclaré le plus important. Après les trois points les plus importants de l'œuvre, qui étaient la finance, les problèmes avec le personnel, et puis les difficultés avec les autorités quand même. J'ai trouvé ça affreusement ironique parce que ce sont des missionnaires envoyés par l'Église et Jésus-Christ n'est même pas sur le podium de leurs priorités. Dramatique. Je suis réaliste parce que je vois que malgré tous les programmes de la mission intégrale dont bénéficie Madagascar, depuis des décennies, le pays ne cesse de s'enfoncer dans le pire et à tous les niveaux. Je constate un échec flagrant de cette idée qu'il faut sauver le pauvre de sa pauvreté, l'illettré de son illettrisme, l'ignorant de son manque de connaissances pour lui prêcher l'Évangile. Je constate l'échec surtout des églises à remplacer les États dans leurs fonctions publiques du social, de la santé, de l'éducation, de la formation et du développement. Et ce n'est pas étonnant. Savez-vous pourquoi ce n'est pas étonnant? Ça n'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est amener des hommes et des femmes à invoquer Christ afin d'être sauvés. Ce n'est pas l'ONU qui va faire ça. Ce n'est pas l'Union européenne. C'est l'Église. Et seule l'Église peut le faire. Theodore Roosevelt a dit « Un homme qui n'est jamais allé à l'école peut voler un wagon de marchandises. Mais s'il a une formation universitaire, il peut voler tout le chemin de fer. » Intéressant, hein? Qu'est-ce qui peut empêcher un homme de voler un petit wagon ou tout le chemin de fer? Ce qui lui manque, c'est un cœur renouvelé. Et cela ne peut se produire que par la prédication de la parole de Christ. Alors que faire? Eh bien, moi, je suis persuadé que si l'Église revenait à son appel primordial, qui est d'amener des hommes et des femmes à invoquer le Seigneur afin d'être sauvés, eh bien, elle verrait plus de fruits. Et il y aurait certainement plus que 3% de chrétiens évangéliques en Suisse, et il y aurait beaucoup moins de pauvreté, de misère et de corruption à Madagascar, mais dans le monde entier. Alors, il faut commencer par changer le cœur des hommes. Et ensuite, ils pourront changer leur ville et leur pays. Amen. J'aimerais prier pour clore ce moment. Père éternel, je veux te louer et te bénir parce que tu as envoyé ton Fils. Tu l'as envoyé en mission sur terre pour nous racheter. Je veux te louer parce que sa mission, ce n'était pas de nous rendre la vie douce et la vie facile. C'était plus grand, plus noble, plus permanent. C'est de nous racheter de la colère, de nous racheter de la mort, de nous donner la vie éternelle. Merci Père pour la mission que tu as donnée au Fils. Et merci Père et Fils de nous avoir envoyé l'Esprit Saint afin de vivre en nous, afin de nous conduire, déjà de nous convaincre du péché, et de nous conduire vers ton trône. Merci, Esprit Saint, pour ce travail que tu fais en chacun de nous. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sainteté nécessaire à partager ton évangile autour de nous, afin que beaucoup puissent trouver la vie. Nous te louons et nous te bénissons, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, de nous avoir rachetés. Amen.